BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes sans veste aujourd'hui, tiens.
Mais oui, je respecte le dress code du chef de l'émission.
Mais l'hiver, je ne vous vois pas sans veste. Hein. Là où il fait chaud, vous êtes venu sans veste. Voilà. L'hiver, je suis tout seul sans veste. En revanche, Julien, alors là, quel que soit le temps, le climat, qu'il fasse 35, 40 ou moins 12, il a toujours la veste, il est toujours super classe. Julien Marion avec nous, BFMBourse.com.
Bonsoir. Bonsoir Guillaume et bonsoir Thierry. Enfin bonjour, on est en été.
Il faut dire que c'est plus simple, vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas eu trop chaud. Il y a la clim, donc on peut porter la veste dans les locaux, effectivement. Par contre, Thierry, il a pris le métro et là, ça chauffait dur. Bon, on est ravis de vous accompagner, de vous retrouver surtout, l'un et l'autre. Ce soir, une valeur se distingue à la baisse à l'échelle européenne, ASML. On démarre par ASML, on y va, puisque d'après les agences américaines, je ne sais plus, c'est Bloomberg, c'est ça ? Je crois que c'est Bloomberg, ouais.
Oui, c'est ça.
Bloomberg, d'après Bloomberg, Washington suspecte ASML d'avoir livré à la Chine certaines de ses machines, en violant donc les restrictions américaines à l'export vers la Chine. ASML a perdu ce soir 1%, c'est pas trop grave, mais ce matin on était en baisse un peu plus marquée. Si cela s'avérait, alors ASML dément, mais si ça s'avérait vrai, est-ce que ce serait un tournant, un gros risque pour ASML ? Thierry ?
Ah, c'est vrai que les États-Unis voient d'un mauvais œil que les machines les plus novatrices d'ASML puissent partir en Chine. Hein. ASML, c'est des machines et des systèmes pour imprimer les circuits électroniques, et c'est un peu à l'IA ce qu'étaient les pelles et les pioches au moment de la ruée vers l'or. Donc c'est un outil stratégique, c'est vraiment, il y a un goulot d'étranglement sur tous ces matériels-là, et voilà, les États-Unis veulent garder la main sur ça, garder leur avance en matière d'IA, si tant est qu'ils aient encore de l'avance sur les Chinois, parce que les Chinois sont quand même bien avancés aussi. Donc ben voilà, il y a une petite guéguerre économique qui n'est pas nouvelle. Moins 1%, c'est vraiment rien du tout. Hein. Le titre, il fait x2 depuis le début de l'année. Et puis voilà, il y a quelques petites prises de profit qui sont plus techniques que fondamentales.
Vous avez envie de renforcer ASML ou ça fait partie des valeurs qui ont suffisamment progressé ?
Alors non, ouais, ça fait plutôt partie des valeurs qui ont suffisamment progressé. On était bien chargé en semi-conducteurs depuis le début de l'année. Mais quand vous voyez des STM qui font x3, des ASML, des Infineon qui font x2 depuis le début de l'année, on ne pensait pas, même dans nos rêves les plus forts, que ces titres-là, on verrait ces cours-là aussi vite sur ces titres-là. Donc on en a profité depuis une dizaine de jours pour alléger.
Ouais, Julien, ASML, moins 1 ce soir, plutôt allégé, hein, Thierry, avec des arguments qu'il vient de livrer il y a un instant. Vous y croyez davantage? Vous pensez qu'il y a encore énormément de potentiel sur notre
ASML? Énormément de potentiel, je ne saurais vous le dire, parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir, en fait, dans le momentum que connaissent les semi-conducteurs, jusqu'où ça peut aller. Donc en fait, on n'a pas trop le choix, nous, les journalistes, qui ne sommes d'ailleurs pas des analystes, que de regarder les fondamentaux. C'est en fait notre rôle. On peut difficilement faire autre chose. Ouais. Sur les fondamentaux, en fait, cette menace américaine, pour moi, c'est l'agitation un petit peu. J'ai peur que ce soit juste de l'agitation. Et d'ailleurs, je pense que le marché a eu la bonne réaction en sanctionnant très légèrement,
juste facilement
rien, si vous voulez. Le vrai sujet pour ASML, ça reste en fait la montée en puissance de leur machine les plus avancées de photolithographie, hein, les EUV. Et là-dessus, il y a eu des inquiétudes assez importantes du marché, encore une fois. Les derniers signaux qu'ils ont envoyés, en fait, étaient assez rassurants. C'est ce qui, encore une fois, à ASML, on peut faire l'analogie avec Airbus. C'est la production et la montée en cadence de l'offre qui est importante. Car la demande, elle est là, elle le restera, elle est très forte. Et là-dessus, les analystes, les derniers signaux sont positifs. Donc on peut penser qu'ASML a suffisamment de potentiel.
Une autre valeur à suivre. Elle est suspendue de cotation depuis hier. On va parler d'une petite valeur, c'est vrai, mais que les particuliers adorent suivre parce qu'elle a cartonné depuis le début de l'année. On n'a pas arrêté de dire que c'était quand même spéculatif, même si on est connecté à l'IA, à la tech, tout ça. Mais voilà, c'est allé très vite. Et là, deux CRSI est suspendue de cotation depuis hier. Après les accusations de Grizzly Research sur des comptes falsifiés, en fait, le chiffre d'affaires, quasiment tout le chiffre d'affaires de CRSI serait falsifié d'après Grizzly Research. De CRSI a dit qu'il démente, et ils apporteront les arguments documentés prochainement. Pour l'instant, on n'en sait toujours pas plus. Hein. Toujours pas d'argumentaire de CRSI qui a été publié, en tout cas avant la clôture, Julien.
Alors, il y aura un webinaire qui sera fait à 18h, si vous voulez, dans lequel ils devraient en fait développer et répondre point par point. Ils vous disent qu'une partie des affirmations, mais qui, à mon avis, relativement faible, du vendeur découvert, Grizzly Research, est vraie. Parce que ce sont des informations publiques, mais ce sont les déductions, les interprétations qui sont totalement erronées selon eux. Mmh. En fait, ce qu'ils vous disent, c'est qu'il y a la majorité du chiffre d'affaires qui dépend d'un contrat avec une personne non identifiée qui serait en fait totalement fictive.
Oui, et donc bah, forcément, exactement, ça pose question. Donc,
grosse controverse. Mais alors, l'AMF nous a appris que Grizzly Research avait déjà coupé la moitié de sa position vendeuse hier pendant le quart d'heure ou les 20 minutes pendant lesquelles ça a coté. Donc, c'est sûr que le cours avait baissé de 40%, je crois. Donc, ils sont passés un peu à la caisse. Hein, mais bon, voilà, est-ce qu'ils sont aussi convaincus que ça de leurs arguments? En tout cas, ils ont déjà coupé la moitié de leur position.
Ouais, juste un point. C'est chaud quand des vendeurs à découvert comme ça viennent massacrer une valeur, avec parfois des arguments, c'est ça le problème. On ne sait jamais avant ce qui est vrai, ce qui est faux. Quoi.
Juste un point, c'est que les analystes vous disent en fait qu'ils appuient là où ça fait mal et que le manque de communication sur ce contrat, en fait, ils en jouent et c'est là où ça fait mal. Juste. Grizzly Research, dans le contexte, en fait, ils s'en étaient pris à accord il n'y a pas longtemps en ayant fait une enquête un peu étrange qui avait lieu dans des hôtels. Cette enquête, elle posait vraiment question à ce moment-là. Et la méthodologie de Grizzly Research était vraiment étrange. Ils avaient mené de lourdes accusations très graves contre Accor.
Oui.
La société avait répondu lors de l'AG. Ils avaient vraiment pas mal démenti. Donc, c'est très difficile de savoir s'ils ont tort ou ils ont raison, parce qu'ils ont un track record qui est, Thierry, Grizzly Research, je ne sais pas si je me trompe, mais un peu mitigé.
Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas, sur le dossier, en se rachetant à moins 40%, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, ils en ont déjà bien profité. Et donc, voilà, ça peut être malheureux pour la société.
18h, webinaire donc, de la direction de CRSI. Voilà, à suivre. Mais on voit que c'est malheureux, hein, parce que d'autres valeurs sont un peu en portée, dans une moindre mesure. Mais on a Calré ce soir, par exemple, qui a perdu 5% dans cette thématique des small caps, qui avait beaucoup progressé autour de la thématique IA et tech. Allez, d'autres valeurs qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Tiens, il y a Carrefour, JP Morgan, qui a publié une note négative, très inquiète, en tout cas, sur l'avenir de Carrefour. L'avenir, non, mais les semestriels à l'avenir de Carrefour. Le titre hier a beaucoup reculé. Est-ce que vous-même, ça vous amène à réfléchir? Le titre, il cartonne depuis maintenant plusieurs mois. C'est une des surprises du marché parisien. Est-ce que vous pensez que cette dynamique de hausse, là, elle est brisée par la note de JP Morgan?
C'est sûr que ça l'a cassé au moins pour jusqu'à la publication des semestriels courant juillet, parce que JP Morgan a clairement annoncé que Carrefour ne pourrait pas s'exonérer de faire un profit warning. Le cours... Carrefour devait être à plus 18 ou plus 20 depuis le début de l'année. Elle a rebaissé d'une douzaine de pourcents depuis ses plus hauts. C'est un titre qui se paye 8 fois les profits, qui donne 7% de rendement sur ces niveaux-là. On est, tout peut arriver. C'est pas très cher. Tout va dépendre de la dynamique et des parts de marché. L'intégration de Cora, comment ça se passe? Est-ce que ça continue à être compliqué au Brésil ou pas? En tout cas, en Espagne, tout va bien. JP Morgan aura tort ou raison. Ils ont un objectif de cours en dessous de 10 euros maintenant. Ça vaut quand même 15,50. Oui. Donc, ils sont très, très pessimistes sur la valeur. On ne partage pas ce pessimisme.
D'accord, Julien.
Ce qu'il faut dire, c'est que JP Morgan, l'année dernière, a fait exactement la même chose avant les semestriels. Ils avaient placé en fait, le groupe sur ce qu'ils appellent négative catalyst watch, en fait, surveillance négative. C'est-à-dire qu'ils disent qu'un événement va faire mal. Et c'était la même chose. Ils disaient que les semestriels vont faire mal. Et Carrefour s'était pris 8% à cause de ça, ou 7%, je crois. Sauf que lors des semestriels, la catastrophe, elle n'est pas arrivée. Le titre avait repris 5%, là vous me direz, du coup ils n'ont pas gagné, mais c'était pas une catastrophe ambiante. Donc c'est pas la première fois qu'ils font ça. Maintenant leur argumentaire, on peut y être plus ou moins sensible. Eux ils voient vraiment un résultat opérationnel courant 12% inférieur aux attentes.
C'est beaucoup, oui.
Pardon?
C'est beaucoup. Enfin c'est peu. Enfin,
c'est beaucoup, mais
ils attendent trop peu, oui.
Mais est-ce qu'ils ont raison ou ont tort? Ils cherchent à appuyer leur thèse négative. C'est pas toujours facile.
Le CAC ce soir, on vous le rappelle, perd 0,5% sur la semaine. Il a gagné plus d'1%. Cinquième semaine de hausse d'affilée pour notre indice CAC 40. Attention quand même au cours du pétrole qui repart à la hausse, parce que on se demande de plus en plus si le mémorandum de paix qui a été signé entre Américains et Iraniens sera vraiment appliqué là, parce que il y a quand même la poursuite du conflit au Liban. Or, la fin du conflit en Liban est une des conditions vraiment exigées et importantes de Téhéran pour respecter l'accord qui a été signé avec Washington. Et sauf qu'Israël attaque toujours le Liban. Donc c'est un souci sans doute pour l'Iran. Et on continue de se poser des questions sur effectivement la véritable mise en œuvre de l'accord signé avant-hier entre les deux pays, l'Iran et les États-Unis. Le Brent remonte, 80,50 $ ce soir. Et le Total Energy en profite ce soir. Le titre Total Energy gagne un peu plus d'1% à la Bourse de Paris, avec Sanofi aussi qui progresse. On a une question d'auditeur sur Sanofi. Maxime sur le Félix BFM Bourse. Le marché semble croire qu'après le Dupixent, Sanofi n'aura plus de blockbuster. Qu'en pensez-vous et que faut-il faire du titre Sanofi, Thierry?
Bah, il n'a pas tout à fait tort. En tout cas, le marché pense comme lui. Le Dupixent, c'est près de 40% des ventes de Sanofi. Et on attend ce qu'ils appellent une falaise des ventes en 2031, à partir du moment où le brevet va tomber dans le public. Alors, ils ont quand même pas mal de choses pour se défendre sur ça, hein, Sanofi, déjà, pour défendre leur brevet, parce qu'ils peuvent changer les indications, ils peuvent changer les dosages, ils peuvent changer des choses qui vont permettre de repousser un petit peu l'échéance, parce que les brevets s'éteignent entre 2031 et 2045, suivant les indications. Donc, nous, on n'est pas si inquiets sur ça. Sanofi aussi, c'est 80 projets de nouveaux médicaments dans les pipelines, dont 34 sont en phase 3. Alors, même s'il y a eu 2-3 accros ces derniers mois, on estime qu'il y a quand même de bonnes possibilités pour que d'autres médicaments sortent. Il y a eu un changement de président. Sur l'historique de rachat de société, la vingtaine qui s'est passée sur ces dernières années, il n'y en a que 2 ou 3 qui se sont mal passées. Donc, les acquisitions, ils savent faire. C'est une vraie biopharma qui se paye avec une décote de 30% sur ses pairs européens, à 9 fois les profits et un rendement de 6-7%.
Vous aimez bien.
On est plutôt acheteur sur ces coins.
Allez, d'autres questions d'auditeurs en rafale. Il nous reste à peine une minute. On va essayer quand même. Mea culpa. Non, mea culpa, c'est l'auditeur qui nous a écrit. C'est son pseudo sur le Félix BFM Bourse. Il nous a écrit mea culpa et il nous demande ce que vous pensez d'Arvern Group pour miser sur la souveraineté française. Arvern Group. Bon.
C'est des projets de géothermie et d'exploitation de lithium dans le bassin rhénan.
Ah. Intéressant.
Pas de PI, c'est-à-dire pas de PER, pas de profit. Souvent, c'est pour des dossiers pour le PI, justement, le private equity. On trouve que ça n'a peut-être pas trop sa place en bourse. Maintenant, voilà, un petit achat spéculatif dans un PEA, PME, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de risques d'exécution encore.
Alexandre nous écrit, que se passe-t-il sur Vallourec? Le titre perd 8% sur une semaine. Vallourec.
Bon, ça, je pense que ça s'explique par deux choses. Le repli du prix du brut. Et puis, ArcelorMittal, qui était actionnaire au-dessus de 25%, dont on pensait qu'il pourrait peut-être faire une offre sur le global de la société, et puis qui a plutôt revendu des titres puisqu'ils sont repassés en dessous de 17% de participation. Donc je pense que les deux effets combinés, puis un peu de repli technique sur un titre qui avait beaucoup monté, plus 60% depuis le début de l'année, bah, ça explique ce repli, mais voilà, pas d'inquiétude particulière sur ces cours-là.
Et comme cet auditeur Alexandre sur Vallourec, comme Mea Culpa qui nous a écrit sur Arvern Group, ou Maxime sur Sanofi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Chacune d'entre elles compte sur notre Félix BFM Bourse ou encore notre fil LinkedIn. Merci beaucoup. Thierry Gauthier, GSD Gestion. Salut Thierry, bon retour. Merci à Julien Marion.
Merci à vous.
BFMBourse.com, plein d'articles encore sur notre site à consulter. Et de nouveaux articles à venir ce week-end aussi, parce que vous bossez aussi le week-end, figurez-vous.
Oui, on travaille le week-end, on est là demain, samedi à 6h.
Ouais. Allez, courage Julien.